French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Salut à tous, moi c'est Manon, je vous parle depuis Houston au Texas et pour cette semaine spéciale placée sous le signe de l'amour, j'ai décidé de me mettre dans la peau de host du podcast pour vous proposer l'interview du jour. Alors aujourd'hui, j'interviewe Anthony. Anthony, il habite dans le nord de la France et d'ailleurs sa future femme habite à Houston. Il l'a rencontrée d'une manière ultra romantique et vraiment pas banale et je le laisse donc raconter son histoire. Alors aujourd'hui, je suis avec Anthony. Anthony, qui est là pour nous raconter son histoire d'amour. Alors Anthony, tu es où aujourd'hui ?
Alors bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de French Expat. Alors moi, j'habite dans les Hauts-de-France, près de Lille.
Ouais, et du coup, tu nous parles de France aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement, actuellement je suis en France, oui.
Ok, et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ?
Alors aujourd'hui, je voulais parler de mon histoire avec Vida, donc ma future femme.
Ok, et du coup, alors Vida, elle est où actuellement ? Vous vous êtes rencontrés comment ?
Alors, Vida vit actuellement à Houston, dans l'État du Texas. Elle est originaire de Hawaï. Nous sommes rencontrés en juin 2017, suite à un de mes voyages en road trip solo de la Californie vers le Grand Canyon.
Ah, oh, super. Et du coup, alors elle aussi, elle était en road trip à ce moment-là ?
Oui, exactement. Elle était en road trip car elle est institutrice, professeure des écoles. Elle était en road trip avec un groupe d'élèves et ils faisaient un road trip de la Californie tout en redescendant vers l'État du Texas et ils ont fait un stop au Grand Canyon. Et donc, à ce jour, mon trip au Grand Canyon était complètement pas du tout programmé. C'était suite au conseil de ma cousine qui vit à San Diego. Donc, j'avais régulièrement l'habitude de partir en voyage à San Diego pour voir mes cousins-cousines. Il y en a un qui vit à Los Angeles et elle, ma cousine, à San Diego.
Tu connais déjà bien les États-Unis, alors ?
Ouais. Donc, j'ai rencontré Vida en juin 2017, mais à savoir que quasiment tous les ans, je me rendais assez régulièrement en Californie. J'ai effectué pas mal de voyages aux États-Unis. Donc, à savoir que les États-Unis, c'est le pays où j'ai le plus voyagé, mis à part l'Europe. Avant cette dernière rencontre, j'avais effectué au moins une bonne 6-7 voyages aux États-Unis, côte est, côte ouest, donc en passant de New York à New York, Miami, j'ai fait aussi San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Donc j'étais depuis très très longtemps d'ailleurs, je suis très très acharné des États-Unis depuis mon jeune âge. C'était un de mes rêves depuis tout gosse. D'ailleurs, je m'étais fait cette promesse d'économiser le maximum d'argent le plus possible lorsque j'ai commencé à travailler. Et j'ai effectué mon premier voyage en Californie en 2012.
D'accord. Et donc là, on est en 2017. Vous êtes au Grand Canyon et comment vos chemins se croisent?
Alors, c'est vraiment quelque chose d'improbable à croire que le destin s'est initié entre nous deux. Donc, je reformule, ma cousine m'a conseillé de partir au Grand Canyon car elle l'avait fait quelques mois plus tôt. Donc, du jour au lendemain, je book mon hôtel, je book ma voiture de location. Sans GPS, j'ai tout imprimé, les petites cartes via Google Maps, ainsi que je me suis aidé d'une carte Michelin pour pouvoir.
Oh, wow. À l'ancienne, quoi.
À l'ancienne, ouais, vraiment, ouais, c'était vraiment à l'arrache, comme on peut dire.
Et t'étais tout seul?
Ouais, j'étais tout seul, ouais. Donc, à savoir que, grosso modo, San Diego jusque le Grand Canyon, il faut compter à peu près 8-9 heures de route. J'ai fait un stop dans la petite ville de Ash Fork. Pour dormir juste 3-4 heures dans ce petit hôtel. Petite anecdote assez marrante, c'est que au moment de booker l'hôtel, je pose des petites questions à la gérante de cet hôtel pour lui demander combien il y avait de temps de l'hôtel jusqu'au Grand Canyon, à quelle heure était le lever de soleil. Donc cette petite bonne vieille femme me conseille de partir aux alentours de 4h30 du matin. Je dors à peine 3-4 heures à l'hôtel. À partir de 4 heures, je trace la route pour le Grand Canyon. J'arrive pile poil à l'heure pour le lever de soleil qui fut magnifique.
Ne me dis pas que tu as rencontré la femme de ta vie à un lever de soleil au Grand Canyon.
Exactement. Donc, c'est vraiment assez, c'est digne d'un film hollywoodien, quoi. C'est un peu.
Ah ouais, vraiment.
Et donc, je prends mes photos, etc. Et je m'étais muni d'un énorme drapeau américain. Et en dehors du sentier, je prends des photos avec mon trépied. Et là, j'entends quelqu'un derrière moi, un peu plus haut au niveau de la falaise, me dire en anglais « J'ai pris des photos de toi ». Ok, d'accord, c'est bien, ok.
Waouh, alors elle avait flashé.
Et donc, en fait, c'est elle a trouvé l'idée cool de prendre cette photo-là avec l'énorme drapeau. Donc je continue mes petites photos, etc. Et quelques minutes plus tard, je décide de reprendre le chemin du trail, donc en escaladant un peu la petite falaise. Et là, je tombe nez à nez avec. Et là, elle me dit « J'ai pris des photos de toi, comment puis-je te les envoyer? Donne-moi ton numéro. » Moi, je lui dis « Écoute, avec mes brefs mots d'anglais où je maîtrisais pas du tout trop la langue, c'était resté assez basique à l'époque, c'était plutôt au niveau scolaire. » Donc, avec mes 2-3 mots d'anglais, je lui fais comprendre que non, malheureusement, je n'ai pas de numéro américain, mais je peux lui donner mon profil Facebook et elle pourra me les envoyer plus tard. Et donc, je lui donne mon profil Facebook. Ensuite, nos chemins se séparent. Donc, vraiment, le contact, ça s'est résumé à une dizaine de secondes, vingtaine de secondes maximum. Et donc, les minutes passent. Et là, je me rends compte que j'ai donné un mauvais profil Facebook avec des fautes d'orthographe au niveau de mon nom, etc. Car je travaille au sein de l'administration pénitentiaire et moi, je suis un peu paranoïaque par rapport à ça. Je préfère garder mon anonymat sur les réseaux sociaux. Je fais extrêmement gaffe par rapport à ça. Et donc là, je me dis, zut, j'ai donné un mauvais nom, prénom ou avec des fautes d'orthographe. Il faudrait que je change. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? Donc, aussitôt, je me suis rendu dès que possible au Visitor Center, où là, j'ai pu capter de la Wi-Fi, et j'ai changé instantanément mon nom, prénom Facebook.
Mais non! C'est énorme!
Par rapport à ce que je lui avais donné. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je continue mon trip. Un jour se passe, 2 jours, 3 jours, pas de réponse, ok? Donc là, je suis de retour à San Diego.
Pourquoi? Tu avais son nom à elle aussi ou tu lui avais juste donné ton profil et
du tout, je n'avais pas son nom de famille, son prénom, je n'avais rien du tout. Donc 2 jours se passent, 4 jours, je reçois rien. Je me dis bon, ok, d'accord. Et là, je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais en pleine ville de San Diego et là, je reçois un message avec la photo en question qu'elle avait prise au loin. Et là, j'étais avec ma cousine et je lui dis « Ah, regarde, c'est la fille dont je te parlais, elle m'envoie un message, etc. » Donc, elle était un peu surprise, elle dit « Ah ouais, franchement, excellent, c'est cool. » Elle me dit « Bah écoute, parle-lui, au moins ça te fera ton anglais, etc. Ça peut être toujours intéressant d'avoir 2-3 potes aux États-Unis pour pouvoir échanger. » Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on continue à se parler régulièrement sur Messenger. On sympathise vraiment beaucoup. Donc nous sommes en fin juin, début juillet à cette période. On sympathise, on continue quasiment à se parler tous les jours jusqu'à minuit, 1h du matin. On échange, on parle de tout, de voyage, nos expériences, de ce qu'on aime dans la vie, nos passions. Elle avait eu cette idée de venir pour les vacances de Thanksgiving, donc en novembre 2017, si je me souviens bien, oui. Elle avait eu cette petite idée de...
Elle avait une idée avant ou c'était 100% par rapport à toi ou elle avait déjà eu envie de voyager en France?
Alors, elle est déjà venue en Europe pour des études pendant quelques mois. Elle est venue étudier à Paris, Rome et Madrid. Donc en France, c'était un bref séjour de quelques semaines. Et à cette époque, elle m'a toujours dit, bah écoute, je voudrais bien revisiter un jour la France. J'ai grave aimé Paris. Et je lui ai dit, bah écoute, tu es mon invité. Quand tu veux, tu peux venir. Sauf que elle a pris cette invitation au premier degré. Moi aussi, ça me faisait plaisir de vouloir inviter une Américaine, lui faire découvrir notre région, notre culture, notre nourriture, nos alcools, etc. Et donc 4 mois plus tard, elle me dit. Je reçois un message le matin, elle me dit « Bon, j'ai pris une décision, ça n'a pas été facile, peut-être je suis folle, peut-être tu vas me faire le remake de Taken, c'est-à-dire le kidnapping de l'américaine à Paris. » Mais bon, j'ai pris le risque.
Pour l'anecdote, mon mari, Andrew, quand il est venu pour la première fois en France, lui aussi, il a pensé à Taken. Hein.
le cliché, quoi.
C'est ça.
Et donc, avant de booker le vol, elle sait que moi je suis un fan de Drake, je suis un incontestable fan de rap et de hip-hop américaine, et la chanson de Drake passe à la radio, et là sur son chemin elle croise un chat noir. Suite à tous ces signes-là, elle décide de booker le vol. Elle se dit bon bah c'est le moment ou jamais de rendre visite à mon pen pals. C'est le petit surnom qu'elle me donne à l'époque. Donc,
un peu comme les correspondants à l'école.
Exactement.
C'est ça.
Et donc, elle réserve le vol. Elle vient pour les vacances de Thanksgiving en 2017, en novembre, pour une semaine. Donc, c'est sa deuxième fois en France. Donc, elle était un peu craintive, car c'était la deuxième fois qu'on se voyait. On s'est parlé juste une vingtaine de secondes en vrai. Sa famille et ses amis n'étaient pas trop chauds par rapport à cette idée parce que, enfin voilà, c'est un peu, on vit dans une société un peu dangereuse, sachant que elle se trouve à des milliers de kilomètres, elle m'a parlé juste une vingtaine de secondes, sa mère m'a envoyé un message me disant de convaincre Vida de ne pas venir. Voilà, c'était un peu compliqué au début, quoi. C'était.
Ah, c'est mignon, une maman protectrice.
Donc moi, je lui ai dit, écoutez, madame, ne vous inquiétez pas, je travaille pour le gouvernement français. Je lui ai même fait une photo de ma carte d'identité, de mon passeport, de comme quoi je travaille pour le gouvernement, etc. Histoire de un peu apaiser les choses. Donc sa mère et ses parents ont été un peu, rassurés. Ils l'ont autorisé à partir. Donc premier jour à Paris. Bon, j'ai fait un peu les choses clichés, visite de la Tour Eiffel au dernier étage avec la magnifique vue de Paris du haut de la Tour Eiffel. On a fait un beau restaurant auprès des Champs-Élysées. Et là arrive le soir, on est à une pizzeria. Et je dis écoute, quelle est la suite de ton voyage, de ton trip ici en France? Et je dis écoute, tu m'as invité, j'ai une chambre chez moi. Au lieu de dépenser de l'argent dans des hôtels, viens, je t'héberge, quoi, sans arrière-pensée derrière.
Ouais. Et là, c'est pas le cliché du français.
Ouais. Donc là, elle prend un break, elle va aux toilettes, elle s'éclipse aux toilettes quelques minutes, histoire de se remettre les idées en place, de dire, bon, qu'est-ce que je fais là, je suis au pied du mur. Est-ce que je prends le risque d'y aller ou je reste ici à Paris et on se fera nos petites visites à droite à gauche, durant les jours qui suivent. Elle décide de me suivre jusque dans le nord de la France, donc à voir que il n'y a pas très loin de chez moi jusque Paris, il y a 1h30 de route, 2h15. Donc, sans avoir pensé, hein, bien sûr, je la ramène chez moi. Le lendemain, Je lui fais la visite de Lille. Durant la suite de son trip, on fait la visite de Gand, de Bruxelles, de Bruges. Et donc,
vous êtes parti en mode road trip une fois de plus.
Bah déjà le point commun qu'on a, c'est qu'on adore voyager, on adore découvrir de nouvelles choses, et c'est cet élément un peu qui nous a réunis entre guillemets quoi.
Ah c'est chouette. Donc du coup vous faites votre petit road trip, et là qu'est-ce qui se passe? Elle doit partir.
On fait notre petit road trip, arrive le troisième, quatrième jour de cette semaine. Forcément vient la question du c'est quoi tes intentions, qu'est-ce que tu veux. Aïe aïe aïe. Moi
aïe aïe aïe.
Premièrement, moi quand je l'ai accueilli ici en France, j'avais pas du tout d'air pensé parce que jamais j'avais eu cette idée de me mettre en couple avec une étrangère qui habite aussi loin. Voilà, moi ma première réponse par rapport à sa question, c'était c'est impossible, je ne veux pas te faire du mal. On habite trop loin, et elle, direct, elle s'est bloquée, elle m'a dit, pourquoi c'est impossible? Dis-moi pourquoi c'est impossible? Déjà, de un, la distance. Et voilà, quoi. Donc ensuite, peut-être, suite à cette discussion, ça m'a mis un warning. Je me suis dit, je m'entends super bien avec cette fille, elle est très mignonne, elle me plaît. Voilà, pourquoi pas tenter, et on verra comment se font les choses sans se prendre la tête, en fait.
Ouais.
Il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne ferai pas de dessin, bien sûr. Et donc, 2-3 jours plus tard, elle est repartie à Houston. Donc, fin novembre. Et elle, dans ses petites valises, elle avait pris la clé de son appartement. Et avant de me quitter, elle m'a dit, écoute, tu m'as accueilli chez toi, voici la clé de mon appartement. Si tu veux venir, tu es mon invité, il n'y a pas de souci. Waouh, ok.
Tu veux venir et puis tu as une clé quand même. C'est ouais, un peu plus qu'à l'invité.
Ouais, c'était vraiment... ça m'a fait un petit choc, je me suis dit waouh, ouais quand même. Donc,
surtout qu'elle avait emmené avant, ça veut dire qu'avant son départ, elle, avec vos échanges, ça, elle avait déjà une bonne idée quoi.
Elle avait un gros crush sur moi, ça c'est clair et net, c'était indéniable. Moi j'avais un petit crush sur elle, mais suite à son séjour en France, ça s'est vraiment confirmé quoi.
Toi t'étais donc, plus raisonné au début.
Ouais, j'étais vraiment sur mes gardes à dire ouais voilà, j'accueille une touriste entre guillemets, mon correspondant américain, voilà,
je vais faire le ouais, mon buddy, mon travel buddy. Non, un peu dans le déni, non.
Et ouais, j'avais cette petite barrière entre guillemets à dire non, c'est impensable. Même mes potes, ils me disaient ouais, elle vient en France, c'est peut-être avec plus que des sentiments amicaux. Moi, j'étais vraiment fermé par rapport à ça. Je disais non, c'est impossible. Tu te rends pas compte. Non, c'est inimaginable. Et en fait, non. Voilà. Et donc après son départ, on continue à se parler très très régulièrement, quasiment tous les jours. Hein. Et je book finalement mon billet pour Houston. Donc, première fois au Texas.
Waouh!
Donc, le Texas, que dire du Texas? Sachant que toi, tu y vis depuis peu de temps, Houston. Le Texas, ouais. Moi, c'était le cliché. Walker Texas Ranger, les chapeaux de cow-boy, les sandales, les grands ranchs, les taureaux, les longhorns. Voilà, par rapport à la télévision, donc, qu'on pouvait nous montrer les clichés texans, ultra conservateurs, etc., les armes à feu dans la rue, tout ce qu'on peut voir.
C'est vrai que Houston, c'est pas trop ça au final.
Exactement, non, c'est pas du tout ça. Donc mon premier choc entre guillemets quand je suis arrivé au Texas, moi j'avais l'habitude de voyager en Californie, c'est où sont les palmiers, parce que la Californie, c'est ça.
Ah, il y a des palmiers quand même.
Oui, il y en a un peu. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on peut voir en Californie, le bling californien, ouais. Les bodybuilders, les hommes bodybuildés, les personnes qui font leur jogging assez régulièrement, le bling, le fancy californienne. Le Texas, c'est plutôt nos prises de tête. C'est la culture texane, conservateur certes, mais assez plaisant en fait. Plus j'y vais au Texas, plus j'aime cet état.
Ouais.
Par rapport à leur culture, leur manière de vivre, leur attitude assez cool, cette ville assez multiethnique, car à Houston on croise de tout quoi. Je crois que tu l'avais.
Et donc du coup, là, tu reviens à Houston et tu lui rends visite et tu restes combien de temps? C'est ton premier voyage à Houston. Tu restes combien de temps?
C'est mon premier voyage à Houston qui s'est effectué durant les vacances scolaires, si je me trompe pas, début mars, à la période du fair à Houston, si je me trompe pas. Je suis resté deux semaines.
Donc en mars 2018, c'est ça?
Exactement. Oui, mars 2018. Donc je lui fais cette petite surprise vu qu'elle m'avait donné sa clé. Je lui ai dit. Je me souviens plus exactement des dates. Et je lui ai dit, bon, bah, j'arrive le 10 mars. Sauf que j'avais booké un billet le 9. Donc, en rentrant du boulot, elle a eu cette petite surprise de recevoir un clandestin chez elle, quoi. Un clandestin français.
C'est romantique, dis donc, Anthony. Hein. T'es romantique, hein.
Et donc, elle ouvre la porte et là.
Quelqu'un qui voulait pas se mettre en couple avec une étrangère.
Ouais, c'est mon côté un peu, comment dire. Romantique, oui, ou imprévisible. Voilà, c'est ce qui me caractérise, imprévisible. Je réfléchis à beaucoup de choses, mais quand je prends une décision, je suis borné, et voilà, c'est un peu la grande surprise. Donc là, elle rentre chez elle, ouvre la porte. Là, elle reste bouche bée, elle laisse tomber son sac. Elle me dit, mais non. Elle me dit, j'en étais sûr. Parce que on avait partagé nos localisations iPhone, et là, ouais. Le jour même, elle check son tracker et elle voit que je suis dans la région. Elle me dit non, c'est pas possible, c'est quoi ce délire, il arrive demain. Parce que, donc petite anecdote, elle avait mis ce tracker quand elle est venue en France pour que ses amis puissent checker sa position, pour qu'ils soient rassurés. Imagine le scénario. Ah, oui. Donc voilà. Donc première.
Il vaut mieux être safe.
Donc deuxième vraie rencontre à Houston, riche en émotions parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à moi, à me voir un jour plus tôt, quoi.
Ouais.
Donc deuxième.
Et alors là, tu restes combien de temps cette fois-là?
Je reste deux semaines aux alentours de Houston, mais on profite vu que c'est la vacance scolaire de bouger un peu à travers l'État. Donc on a été à Houston. Comment?
Encore un road trip?
Ouais, nous on en fait beaucoup, on est peut-être un peu trop addict par rapport à ça, on a la bougeotte. On peut pas rester à un endroit ou dans un hôtel et se pavaner au bord de la piscine à boire des cocktails, c'est impossible. On a des piles dans les jambes. Et donc durant ce premier voyage au Texas, on profite de découvrir ensemble, de voyager à travers Austin, Houston bien sûr, San Antonio et la Nouvelle-Orléans. Alors, Nouvelle-Orléans, j'en garde un bon et très mauvais souvenir. Bon souvenir car c'est une ville magnifique, certes, mais au retour de la Nouvelle-Orléans, j'ai été malade comme un chien à ne plus pouvoir tenir debout.
Oh là là. Bon, au moins, c'est le genre de truc qui resserre les liens. Là, on devient un couple sérieux direct hein, quand il y a quelqu'un qui est malade.
Ah ouais, elle était vraiment très paniquée de voir mon état. Je ne sais pas du tout ce que j'ai eu, des symptômes assez grippeau fiévreux pendant deux jours cloué au lit. Elle était à deux doigts de m'emmener à l'hôpital. Donc, on s'arrête dans un CVS, on prend les premiers médicaments de premier secours. Au bout de deux jours, c'est bon, j'arrive à manger quelque chose et à tenir sur mes pieds. Donc, premier voyage riche en émotions, quoi.
Bon, et depuis, t'es retournée à Houston, elle est retournée en France, vous en êtes où, là?
Oh, la liste, elle est très, très longue. Donc, en mars 2018, c'est ma première fois à Houston. En juillet 2018, je retourne pour un mois quasiment à Houston. Et là, on décide de faire un mini-trip du Texas vers la Californie en voiture.
Donc, voyage assez long.
On a vu du paysage, les bornes et les miles, on les a avalés comme je ne sais pas quoi. Donc, petit passage à Amarillo, Cadillac Ranch, Monument Valley, Zion National Park, The Arches, et en faisant notre dernier stop à San Diego.
Waouh, Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où? Toi, t'es en France, elle est à Houston. Quels sont les projets?
Alors, les projets, c'est que, donc, en décembre 2018, on voit que les choses deviennent sérieuses. J'ai pu rencontrer sa famille plusieurs fois, ses amis. Et là, je me rends compte du gros deal qu'il y a entre les relations hommes-femmes aux États-Unis par rapport à la France. C'était le gros dilemme, quoi. C'était la grosse différence. En France, on peut être en couple avec une personne pendant 6 mois, 1 an, 3, 4, 5 ans, 10 ans, sans pouvoir être paxé, marié, et ne poser aucun problème au niveau des amis, de la famille. Et là-bas, je me suis rendu compte que les États-Unis, c'est un gros, gros deal.
Ah oui, oui, le mariage, c'est...
Je me suis rendu compte que eux, leur relation est très, très structurée par rapport à nous, la France. C'est que,
oui, c'est vrai.
Les premiers rendez-vous, tu dois faire ça, deuxième, troisième. Au bout du troisième, si ça marche, voilà, c'est vraiment sérieux. Et tu dois.
Ouais, c'est ça, ils officialisent beaucoup. D'abord, on date, ensuite, on devient petit copain, petit ami officiel, ensuite, on se fiance, mari.
Moi, c'est vrai j'avais pas du tout l'habitude par rapport à ça, car là, j'ai vraiment senti cette grosse différence culturelle par rapport à mes précédentes relations, quoi. Et donc, elle m'a dit, voilà, nous, aux États-Unis, ça marche comme ça, il faut que. Il faut que tu te plies
entre vous-même. C'est quelque chose, Anthony.
Et ouais, parce que au fil des mois que, de toutes les fois que j'ai pu le rencontrer, elle me donnait pas mal de hints, pas mal d'indices. Donc, c'est remue-toi, fais quelque chose. Ici, ça se passe comme ça. Elle m'a mis plusieurs warnings. Et je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Sinon, ça risque d'être tendu pour toi à l'avenir. Donc,
au bout d'un moment,
c'est durant notre road trip vers la Californie où j'ai fait ma proposition à Monument Valley.
Waouh.
Donc c'était un de nos rêves d'aller visiter ce lieu qui reste assez mythique de l'Ouest américain. Ouais. Donc, j'ai fait ma proposition là-bas. Et voilà, j'ai franchi le cap.
Alors t'as mis le genou à terre, le vrai cliché.
Non, moi je suis assez pudique au niveau des sentiments. J'ai pas voulu faire cliché le genou à terre parce que je reste quand même moi, je reste Anthony le Français, donc je suis pas habitué à ce genre de choses car c'était ma première fois, c'était ma première demande de fiançailles vraie. Bon, j'ai fait les choses bien, mais bon, je n'ai pas posé le genou à terre comme on peut voir. Donc, désolé pour ceux qui sont un peu déçus de moi.
Non, mais t'as raison, il faut faire quelque chose qui nous correspond.
Exactement, il ne faut pas aller à l'encontre de son cœur.
Et du coup, c'était un lever de soleil, comme quand vous êtes rencontrés ou pas?
C'était au matin, donc presque au lever de soleil. Voilà.
Chouette. Bon, du coup, j'imagine qu'elle a dit oui.
Oui, elle a dit oui. Donc, officialisation au niveau de ses amis, etc. Puis même auprès des miens, ils ont été assez surpris mais contents pour nous.
Ouais.
Donc voilà, au retour de ce trip de la Californie vers le Texas, nous sommes en pleine route et je lui dis écoute, tu m'avais parlé d'une de tes cousines qui vivait à Phoenix dans l'état de l'Arizona si je me trompe pas. Donc je lui dis pourquoi on fait un stop? On fait un stop, on rencontre sa cousine qui se mariait quelques mois après à Hawaï. Donc on lui explique les choses, elle voit que c'est très sérieux, elle me dit écoute Anthony, je vois que tu es un mec bien, tu es notre invité pour le mariage. Waouh. Donc ça me semble assez...
Waouh. Ouais, là ça y est, hein. Aux États-Unis quand t'as fait la demande de fiançailles, c'est bon, tu fais partie de la famille. Hein.
Exactement, sachant qu'elle a une famille immense. Donc voilà, donc je retourne en France en fin juillet, j'arrive à me débrouiller comme pas possible pour changer mes congés, pour arriver à avoir des congés en septembre, donc à peine 2 mois plus tard. C'est rebelote,
un billet d'avion, des flight connections à n'en plus finir pour pouvoir le payer le billet d'avion le moins cher possible. Donc je reste à peu près une semaine à Hawaï, à Oahu, exactement sur l'île de Oahu, pour assister au mariage et rencontrer toute sa famille. Donc voilà, tous ses cousins, etc., ses cousines, ses oncles. À peu près plus d'une centaine, quoi. Donc, je te laisse imaginer la.
Oh, wow, ouais, on est une grande famille.
Voilà, voilà, quoi.
Du coup, donc maintenant, si tu veux, on peut faire un point un peu sur où vous en êtes. Donc, ouais. Elle est à Houston, toi, tu es en France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous êtes fiancés, vous préparez le mariage. Il me semble que tu as des démarches de visa. T'en es où à peu près?
D'accord, donc. C'est très très long, ce fut compliqué, ça le reste encore. Donc en décembre 2018, nous décidons de faire la demande de visa K1.
Ouais.
Démarche qui est
longue.
Épuisante au niveau des.
Ouais.
Et longue, très très longue. Et épuisante au niveau de la recherche de documentation de toutes les preuves à fournir au niveau du gouvernement américain. Donc généralement, on voyait sur les forums. Que le délai d'attente avant d'avoir un feedback, d'avoir une réponse, s'estime entre 6 et 8 mois. Donc nous, on a eu la demande en décembre, on pensait avoir une réponse en juin-juillet 2019. En été 2019, je me rends encore une fois à Houston. Toujours pas de réponse au niveau du gouvernement américain. On décide, avec bien beaucoup de mal, de les joindre par téléphone. Donc c'est minimum une heure d'attente, c'est vraiment horrible pour les avoir. Et donc, on leur dit qu'on a postulé au visa K1 depuis décembre et que depuis ce jour, on n'a aucune réponse de leur part. Donc, je te laisse imaginer un peu les inquiétudes que cela procure.
Ouais, d'attendre plusieurs mois. D'avoir vécu aussi, c'est vrai que c'est long. On a toujours peur que notre dossier soit perdu. On imagine les pires histoires et on se dit, mais c'est ma vie qui est sur la ligne. C'est pas un job ou quelque chose, quoi. C'est ma vie. Donc, c'est vrai que c'est dur.
Donc, on essaie de les joindre plusieurs fois. Donc, c'est minimum une heure d'attente au téléphone dès 9 heures du matin, dès que les bureaux ouvrent. C'est vraiment affreux. La femme qui s'occupe, entre guillemets, de notre dossier, nous informe qu'elle nous avait envoyé une réponse en juin et que cette réponse devait être accompagnée d'un papier en question à retourner dans les 2 mois maximum. Sauf que ce courrier en question, ce mail ou cette lettre, que nous avons jamais reçu pour juin, on ne l'a jamais reçu en fait. Donc cette femme nous dit donc que ça risque d'être très compliqué. Donc là, c'est vraiment le château de cartes qui s'écroule. On s'imagine le pire scénario, c'est-à-dire que faire? Prendre un avocat, payer je ne sais pas combien, car les frais d'avocat sont assez onéreux aux États-Unis. Reformuler le dossier depuis le début, attendre de nombreux mois. Donc cette femme nous dit votre demande, nous avons bien pris votre demande, nous allons vous fournir une réponse dans les 2 mois qui arrivent. Waouh, donc là c'est encore
de l'attente.
Encore une prise de tête, c'est des attentes, on se dit bon, c'est reparti pour 2 mois. Et bizarrement, 3 jours plus tard, on reçoit un mail qui nous confirme comme quoi je pense qu'ils avaient perdu notre dossier ou égaré, je ne sais pas. Qui nous confirme que notre demande avait été acceptée, qu'ils nous laissent une seconde chance entre guillemets pour fournir le papier en question. Donc par la suite, nous fournissons le papier manquant la journée même.
Cool.
Donc là, nous citons à peu près, voilà, il était septembre 2019, si je ne me trompe pas, septembre 2019, ouais. Donc quasiment 8-9 mois après l'envoi de la demande, donc ce qui est énorme, quoi.
Moi, je crois que c'est vrai que ça m'a pris un temps fou entre ma demande et mon visa. Je dirais 11 mois, il me semble que ça a pris.
Donc là, personnellement, on se dirige vers quasiment un an et demi, quoi. Donc là, quelques semaines plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres la confirmation du gouvernement américain. Nous indiquant que le I-129F a été approuvé, donc ils appellent ça le fiancé spouse petition.
Ouais.
Bonne nouvelle. Là, ça nous permet de souffler et de, comment dire, de détendre un peu les esprits, les tensions, parce que, mis à part ça, indirectement, ça crée forcément des tensions au niveau du couple, quoi. Malheureusement.
Car, oui, c'est vrai que c'est des choses qui sont dures à vivre. On se pose beaucoup de questions.
Moi, je suis plutôt d'un tempérament assez calme, à être, à voir toujours positif, alors que elle est un peu plus stressée par rapport aux choses, aux petits tracas de la vie. Elle a assez, comment dire, elle a un cœur à prendre les choses assez facilement, en fait. Elle est très sensible par rapport aux choses. Et moi, je suis dans un plutôt tempérament à calmer les choses. Donc, je te laisse imaginer le côté feu, le côté eau. Ça crée forcément des petites explosions.
Mais bon. On est un peu pareil à la maison. Je suis un peu comme elle.
Je pense que c'est un peu pareil pour toutes les filles. Je déconne. Et donc, waouh, suite à cette réponse, ça nous fait souffler. On se dit, waouh, c'est bon, on vient bon, on peut souffler. Les choses se décantent petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Donc, suite à cette réponse, ben, c'est prise de rendez-vous au niveau de l'ambassade américaine à Paris, ainsi que une prise de rendez-vous pour voir un médecin, pour faire un check-up complet médical, si je me trompe pas.
Ouais. Donc, moi, personnellement, donc ça, tu l'as déjà fait, ton entretien et ton rendez-vous médical, ça c'est tu l'as déjà fait ou pas?
Le rendez-vous a été pris, je passe au niveau de l'ambassade et du rendez-vous médical le mois prochain, mi-février.
Ah, super!
Donc voilà.
Bon, après ça, ça devrait se passer très vite. Moi, tu vois, après mon rendez-vous, j'ai reçu mon visa une semaine après, jour pour jour.
C'est ce qui se dit à peu près, oui. Une dizaine, une quinzaine de jours maximum, d'avoir une réponse concrète. Donc en espérant que ce soit ah oui, je pense que ce sera un oui.
Super. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un bon rendez-vous, un visa qui arrive vite, et ensuite un départ pour Houston, c'est ça?
Un départ pour Houston qui s'effectuerait, je pense, pour ma part, car avec le travail c'est un peu compliqué, pour avant cet été, pour mai-juin 2019, pardon, 2020. J'ai pas encore fait la transition avec la nouvelle année. 2020, pardon.
Ouais, c'est normal, on est que début janvier.
Exactement, ouais.
Moment de l'enregistrement.
Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Bah, c'est une bonne installation et surtout une bonne adaptation, car j'ai un peu ces deux côtés. J'ai une forte excitation à partir, à voir quelque chose d'autre, à avoir un nouvel objectif dans la vie, surtout. Car ouais. J'ai toujours dit, avant mes 30 ans, il faut que je franchisse un cap, que je sorte un peu de cette routine, ouais. Et que je me fixe de nouveaux objectifs à remplir et à atteindre. D'avoir un travail là-bas, qui pourrait s'acheminer vers un travail, d'avoir une situation, être indépendant économiquement, parce que
ouais.
Partir à l'autre bout du globe et dépendre de la personne, moi je lui ai toujours dit, elle, hein, je lui ai dit, moi c'est pas ma plus grande crainte, peur de partir, moi ça reste de trouver un travail. Elle me rassure, elle me dit, ouais. Ne t'inquiète pas, à Houston, au Texas, le travail, c'est pas ce qui manque.
Non, et puis il faut, vous allez vous retrouver d'ici quelques mois. Il faut aussi que vous puissiez profiter un peu l'un de l'autre et tout, tu vois. Après autant de distance, c'est important de se retrouver tous les deux.
Oui, c'est clair, sachant que toutes les fois où on se voyait, c'était un mois maximum, deux semaines. Donc,
ouais, c'est ça, puis c'est intense, on a envie de voyager, donc ouais, on ne profite pas pareil.
La relation longue distance, quand on essaye d'avoir le maximum de contacts, donc nous, on se voyait assez régulièrement, hein. Elle avait assez de facilité avec son travail, moi de même. On essaie d'acheter les billets les moins chers possibles pour pouvoir se voir le maximum possible. Mais bon, cela, mis bout à bout, ça coûte de l'argent, ça fatigue aussi.
Ouais.
Voilà, quoi.
Bon, bah, je te remercie, Anthony, d'avoir partagé avec nous ton histoire d'amour. On te souhaite tout le meilleur et que 2020 soit l'année du visa, de la carte verte, du travail, du départ à Houston, que ce soit votre année. Des retrouvailles surtout.
rendez-vous peut-être pour un prochain épisode pour la suite, pour vous dire comment se déroule mon installation.
Alors Anthony, pour conclure, tu avais un petit texte, il me semble, à partager avec nous. On t'écoute.
Alors, je peux comprendre que cela peut mettre en doute les personnes qui rêvent d'ailleurs de pouvoir vivre leur rêve à fond. Je sais que cela peut apporter des doutes, des confusions, des peurs, des craintes. Mais il y a un jour, je suis tombé sur ce texte sur Internet. J'avais envie de vous le faire partager. Alors, c'est un texte de Laurent Thomas. Alors, je cite. « Il y a 37 ans aujourd'hui, j'ai débarqué à New York, seul, apeuré, avec quelques dollars en poche. Un niveau d'anglais à faire peur les vaches espagnoles, mais avec les yeux pleins d'étoiles. Ce poste s'adresse aux jeunes qui viennent d'arriver ou qui pensent à venir, ceux qui veulent faire leur vie ici. Je ne parle pas des étudiants ou de ceux qui viennent travailler un an ou deux et retournent à la fin de leur contrat. Tu sais qui tu es. Si tu as des étoiles plein les yeux, ne laisse pas les autres te les enlever. Tente ta chance, tombe, relève-toi et recommence. C'est ton rêve à toi, pas celui des autres. Les autres, ils ont tous des excuses pour ne pas réaliser le leur. Et pour te dissuader de réaliser le tien. C'est pas facile, des coups tu vas en prendre, mais ça en vaut la peine à tous les niveaux. Tu sauras très vite si c'est pour toi ou non, avant que quelqu'un ne te sorte « Ah, mais le rêve américain n'existe plus » ou « C'est pas comme il y a 40 ans ». On m'a dit la même chose à moi quand je suis arrivé. Pour chaque personne qui te dira « Tu peux pas, il faut pas », il y en a d'autres qui te diront « Comment puis-je t'aider ?» Ta réussite n'est aucunement garantie et ça ne finit pas toujours en courbe d'effet. Une chose est sûre, tu vas en baver. Maintenant, tu peux toujours rester au Café du Coin, à Lille, Angers, Quimper, Poitiers ou ailleurs, à boire une bière en regardant l'Amérique à la télé. C'est ton rêve et ces étoiles n'appartiennent qu'à toi. Bonne chance.
Waouh, c'est magnifique. Moi, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on souhaite à tous les auditeurs, c'est de réaliser vos rêves et de suivre votre cœur.
Il vaut mieux vivre sa vie avec des mémoires, des souvenirs, qu'avec des rêves. Voilà.
C'est vrai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Vous savez désormais à quel point ça nous aide. Tout comme aujourd'hui avec Marine Flora qui nous dit « fun et informatif ». J'adore écouter ce podcast. Les invités ont des histoires géniales à raconter sur leur expatriation aux quatre coins du monde. C'est fun à écouter, que vous soyez en voiture, au sport ou en voyage. Merci beaucoup Marine Flora. Sachez que vous pouvez également nous aider en partageant le podcast avec votre entourage. Expat, futur expat, ex-expat ou tout simplement rêveur ayant envie de s'évader. Pour prolonger l'aventure, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Mapster. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.